et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM ou depuis quelques semaines et particulièrement sur cette deuxième reconfinade. Nous avons pris pour habitude d'aller toujours plus près de chez vous à la rencontre de personnalités diverses et variées de nos Gascons contrées pour deviser, papoter, créer encore un petit peu plus de liens et de convivialité ce matin et aujourd'hui. Invité sur nos ondes, Pascal Laguillan. Salut Pascal.
Bonjour Jeannon.
Alors les
bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bien sûr.
Et oui, et les auditeurs auditrices qui te connaissent peut-être particulièrement s'ils sont aficionados, amateurs de tauromachie, puisque tu fais partie, Pascal, de l'équipe tauromachique de Radio MDM. Alors forcément au repos depuis quelques semaines. Et c'est peut-être par là d'ailleurs que l'on va débuter notre entretien, parce qu'on va causer aussi tennis avec toi. Donc tu es un expert. C'est même ton taf, Pascal, le tennis. Tu vas nous expliquer tout ça. Et puis amateur et amoureux inconditionnel de toutes les musiques. L'aficionado qui sommeille en toi, évidemment, Pascal, je l'imagine un tantinet frustré de ces dernières semaines, Pascal.
Oui, ça c'est sûr, hein. C'est pas quelques semaines, maintenant je dirais que ça fait quelques mois, hein, que bah, évidemment depuis le premier confinement, depuis le mois de mars, depuis ces annonces, la tauromachie, elle est épisodique, voire inexistante dans l'Hexagone. Donc il y a eu quelques velléités. Heureusement que dans le sud-ouest, on a pu, les chanceux comme moi ont pu aller voir cette corrida de Dax au mois de septembre. Et puis heureusement que juste avant le confinement, il y avait eu ce petit festival à Mont-de-Marsan que j'avais pu voir. Mais c'est vrai qu'entre les deux, pour moi, j'ai pas eu l'occasion de voir quoi que ce soit au niveau taurin. Alors effectivement, je dirais pour le milieu taurin, une grosse catastrophe, parce que évidemment les ganaderos ont un manque à gagner, les toreros, et puis est-ce que ça va pas nous changer la tauromachie? Je pense que oui, il y a certainement des choses qui vont évoluer. Oui, effectivement, pour nous c'est triste. Moi qui suis dans une peña, effectivement, notre peña, elle aussi, elle est un petit peu à l'abandon, hein, puisque pour l'instant, on ne peut pas non plus, à cause du confinement, se voir, échanger ensemble, et puis discuter. Donc il y a plein de choses qui font que, notre aficion, pour l'instant, elle est en mauvais état.
Mmh. Quand tu parles d'évolution, Pascal, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu n'as pas prédit?
Ouais, je sais pas. Moi, il y a quelques temps, j'avais mangé avec deux amis aficionados, et on discutait ensemble un petit peu de ce que pouvait devenir la tauromachie, parce que dans l'état actuel des choses, nous on a vécu, parce que moi je suis un ancien quand même, j'ai vécu la tauromachie des années 70, et jusqu'à présent, qui était quand même une tauromachie avec les picadors, avec la mise à mort, et là on discutait, et puis on se posait la question de savoir qu'est-ce qui allait pouvoir évoluer. Et effectivement, peut-être que vu que la tauromachie à l'heure actuelle, on a plus l'impression qu'elle se dirige vers du spectacle plutôt qu'un art, je dirais, de combat, comme nous on l'entend, ancien, hein. Je me mets dans les anciens, hein, maintenant. comme nous on l'entend, c'est-à-dire véritablement un combat entre un homme et une bête, ce qui est l'essence même, moi, pour moi, de la tauromachie, avec une mise à mort, ça risque d'évoluer. Peut-être que les picadors vont disparaître, peut-être qu'il n'y aura plus de piques, peut-être qu'il restera un picador avec son cheval, qui vérifiera, comme on dit, la bravoure du taureau en ayant des rencontres avec l'animal, mais plus cette pique. Peut-être que ça peut évoluer dans ce sens-là. Peut-être qu'on arrivera à un moment donné à avoir plus de mises à mort, parce que tous les gens maintenant s'insurgent contre les mises à mort, contre le mal-être animal, effectivement. Bon, ça, je veux bien, mais après, il faut rester quand même, je dirais, il y a certains philosophes qui le disent, hein, il faut rester quand même un petit peu dans des normes la morale, toujours la moralité. Mmh. Enfin, bon, bref, moi, il me semble que il y a des cultures, il y a eu des choses qui sont faites. Il y a des gens qui, moi, j'accepte d'autres choses, et donc, pourquoi pas accepter la tauromachie Voilà.
Vaste débat, vaste sujet qui s'anime un petit peu plus encore effectivement avec l'atmosphère que l'on vit, alors pas spécialement du confinement, mais c'est cette atmosphère tauromachique, c'était déjà avant, hein, qu'il y avait comme ça quelques mouvements, évidemment on en parle régulièrement sur nos ondes, enfin, c'est un large débat, le tout peut-être, Pascal, je sais pas ce que t'en penses, c'est d'avoir l'acceptation de la vision de l'autre aussi, de pas avoir une vision bornée et qui n'écoute pas à l'autre et qui écoute pas, qui ne comprend pas, qui n'essaie pas de comprendre ce que par exemple la tauromachie dans notre région, on peut représenter, il y a un petit peu de ça, Pascal.
Ah ben ça, c'est sûr et certain. T'as deux clans qui s'affrontent, enfin, qui s'affrontent, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un clan qui est plus virulent que l'autre, parce que nous, les taurins, franchement, qu'on nous laisse tranquille à vivre notre tauromachie, moi je vais pas embêter qui que ce soit et remettre en cause la condition animale. Moi je suis avant tout quelqu'un qui aime les animaux, beaucoup, j'en ai eu beaucoup à la maison, et donc moi je me sens pas être quelqu'un de un vilain petit canard parce que je vais à la corrida et que je vais voir des mises à mort. Non, moi je trouve que justement il faut garder un petit peu raison et faire en sorte que chacun peut avoir des avis, mais moi je partage certains avis, mais je vais pas aller m'insurger systématiquement contre quelque chose en raison d'une certaine moralité qu'on voudrait bien nous faire croire que c'est la loi, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Moi, je ne pense pas. Voilà. Après, moi, quand je discute avec des gens qui n'aiment pas forcément la tauromachie, je ne vais pas aller batailler avec ces gens-là. Je les laisse penser ce qu'ils veulent, mais surtout qu'ils viennent pas à moi essayer de me dire que c'est eux qui ont raison et pas moi.
Ah, et puis Pascal, d'après ce que j'ai compris, je suis pas un spécialiste de l'univers tauromachique, mais tu es en plus un vrai amoureux du taureau, le taureau en lui-même, quoi. C'est ça que tu recherchais dans la tauromachie, c'est l'animal avant tout, quoi. Ouais.
Ben, c'est ça, moi j'ai toujours aimé cet animal, sa force, son côté sombre, son pelage noir. J'ai adoré, c'est un animal fort, qui est, quand tu le vois, paisible dans le champ et qui se révèle furieux quand on l'agresse, quand on le met en difficulté. Donc c'est vrai que moi j'adore aller les voir dans les champs. Je connais quelques éleveurs et je vais me ressourcer, je dirais, de temps en temps, dès que je le peux, dans les élevages, voir un petit peu comment ces taureaux sont élevés, comment ils grandissent. Et pour moi, et quand je vois les éleveurs, je vois des gens qui aiment leur élevage, qui aiment leurs taureaux et qui les font combattre parce que justement, ils veulent voir la bravoure et la puissance de leurs taureaux. Et ça, voilà. C'est sûr que moi, au départ, c'est avant tout le taureau. Oui.
Pascal Aguilar, ouais, vas-y, poursuis, pardon, Pascal.
Non, je disais, il y a plusieurs, comment dirais-je, courants un petit peu dans la tauromachie. Il y a ceux qui vont aimer les taureaux, il y a ceux qui vont aimer le torero, le côté plastique, le côté artiste du torero. Tout ça, c'est un tout. On aime la tauromachie pour tout ça. Et donc. Oui, effectivement, moi je pense que la tauromachie, c'est un art.
J'ai l'impression que tu as le même petit rafale qui passe au-dessus de Saint-Avit qui vient de décoller tout à côté des sud de Radio MDM. Là. C'est ça, Pascal. Ça, c'était juste pour le décor.
Tu l'entends bien.
Juste pour le décor sonore. Pascal Aguillan, passion tauromachique, passion sportive, on va en parler avec des couleurs jaunes et noires que je t'ai vu porter. Et puis un petit arrêt tout de suite, Pascal, sur la passion musicale aussi, parce que tu nous as fait trois propositions de voyages musicaux. Ton premier choix, c'est un titre, Guarija, de Carlos Santana. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pascal, de ce morceau?
Bah écoute, Carlos Santana, moi, c'est mon époque, c'est le début des années 70, quand j'avais à peu près 12 ans. Donc j'ai découvert la musique parce que j'avais des potes à moi qui faisaient de la musique et et qui en faisaient à bon niveau. Et je me rappelle qu'en sortant du collège, on allait chez l'un, chez l'autre, écouter de la musique. Et Carlos Santana, pour nous, ça a été un des plus premiers grands guitaristes qu'on ait écouté des années 70. Il y avait Jimi Hendrix, il y a eu Roy Buchanan, il y a eu Eric Clapton, et il y en a eu plein. C'était véritablement cette nouvelle ère, je dirais, de l'électrique et de la guitare électrique. Et ce qui nous plaisait avec Carlos Santana, c'était en plus les rythmes qu'il y avait derrière. Et donc, si tu veux, j'ai choisi cette chanson qui tirait de l'album numéro 3 de Carlos Santana, où là, je dirais, c'était véritablement presque un des albums les plus aboutis de Carlos Santana. Et d'ailleurs, en 2018, je crois qu'il a refait un album avec les mêmes musiciens que sur celui de Santana 3. Mmh. Parce que justement qu'il l'a appelé Santana 4, parce que lui-même s'est rappelé de ses racines et de cette musique qu'il avait mise en place. Et donc, il a refait un disque qui ressemblait un petit peu au Santana 3. Mmh. Et Guajira, pour moi, c'est un morceau qui met un petit peu tout à l'intérieur. Il y a la guitare, il y a le rythme, il y a le son mexicain, puisque c'est chanté en mexicain un petit peu. Et Guajira, c'est la paysanne au niveau sud-américain. C'est le nom qu'on donne aux paysans, les Guajiros, et la Guajira, c'est la paysanne. Et donc, pour moi, c'est un petit peu ce tout. Et effectivement, Carlos Santana, moi, je l'ai vu plusieurs fois en concert. Au début des années 70 ou 80, dans les fins des années 70, vers Saint-Sébastien, je l'avais vu. Après, je l'ai vu plusieurs fois à Dax. Et puis, je l'ai revu il y a 3 ans, je crois, à Jazzin Barciac, où il était passé. Il nous avait fait justement, il nous avait représenté, il présentait son Santana 4. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui reste fondamentalement un super musicien. Et qui retrace un petit peu toute ma jeunesse.
Voilà, salut la Guarija de Carlos Santana Pascal sur les ondes de Radio MDM. La voici, la voilà. Moi, je vais faire quelques notes de ce sublime voyage de Carlos Santana. On va se le garder en fond pour poursuivre cet entretien, Pascal. La Guarija de Carlos Santana, premier choix musical de Pascal Aguillon, donc invité du jour sur les ondes de Radio MDM. Je te promets que d'ici la fin de la semaine, d'ici demain donc, on écoutera en intégralité ce titre dans les matinales de Radio MDM. Les couleurs jaunes et noires, ouais, Pascal. J'aimerais bien venir sur l'aspect sportif de ta carrière, une carrière que j'ai vue débuter moi personnellement avec le Stade Montois Football, le Stade Guy-André Boniface qui s'appelait Barbe d'Or à l'époque, un tournoi international organisé par les Girondins de Bordeaux et les juniors du Stade Montois contre Benfica de Lisbonne dans les buts de Pascal Aguillard. C'est par là que tu as débuté, Pascal, ou tu avais fait d'autres choses avant le foot?
Écoute, non, moi j'ai commencé, j'ai toujours commencé par le... Il y a eu le tennis, toujours.
Ouais.
Et après, j'avais commencé, j'étais parti au rugby avec mes potes, je faisais l'école de rugby. Et puis, un petit peu plus tard, certains potes sont partis vers le foot et m'ont dit, viens avec nous au football. Je suis parti au football. Bon, écoute, j'ai passé des grands moments, je dirais, au foot, comme tu l'as signalé, ce tournoi ce tournoi de Bordeaux extraordinaire où j'avais tenu en haleine, je dirais, pendant une mi-temps, tous les supporters qui étaient là, parce que je crois qu'il y avait du monde à Barbe d'Or ce jour-là pour aller voir des juniors du Stade Montois football. C'était quand même pour nous un grand moment, je l'avoue. Et donc, j'avais beaucoup de réflexes, certainement dû au fait que je joue au tennis et que, il fallait aller très vite. Et donc, j'avais un bon œil, de bons réflexes. J'arrivais souvent à trouver les bonnes trajectoires pour être sur la balle. Et ça a emmerdé, entre guillemets, longtemps des joueurs de Benfica qui ont quand même réussi à trouver l'ouverture. Mais ça a été... un grand moment.
J'imagine. Vas-y,
ouais.
Pascal, vas-y.
Et ça a été aussi, surtout, une histoire, une histoire importante au niveau de l'amitié avec tous les garçons avec qui j'ai passé du temps au football, comme j'en ai passé au rugby. Dans ces sports collectifs, effectivement, on trouve aussi pas mal d'amitié et c'est des histoires hyper sympathiques à vivre.
Les pauvres jeunes de 15 ou 20 ans actuellement, la passionnée de football, de basket, de handball, de rugby, ça va peut-être leur manquer dans leur vie. Enfin, j'espère que ça ne va pas trop s'éterniser, mais parce que c'est vrai que ce qu'on garde, c'est ce que tu viens d'évoquer aussi, c'est ces sensations, ces potes qu'on fait autour de, notamment donc, cette pratique sportive.
Ouais, tout à fait, c'est ça. L'aventure humaine, moi je pense qu'elle est faite aussi de toutes ces rencontres, de tous ces liens forts d'amitié qu'on peut tisser tout au long de notre vie. Moi, j'ai tissé des liens d'amitié avec des potes depuis mon plus jeune âge. Je suis toujours pote avec eux. On a toujours des liens aussi forts. Et c'est vrai que ça c'est pour moi c'est hyper important de pouvoir continuer à vivre cette amitié et ce partage. Ça c'est pour moi quelque chose de super.
On va, avant de rentrer un petit peu plus dans le côté tennistique de ton activité, Pascal, écoutez le second choix que tu nous as proposé, le I'd Rather Go Blind de Beth Hart et Joey Bonamassa. On écoute et puis tu m'en dis quelques mots, Pascal.
Ok.
Quelques scrupules à venir poser ma voix de baryton manqué sur ces sublimes notes, donc cette sublime voix de Beth Hart avec Joey Bonamassa à Rather Be Blind, second choix de Pascal Agui, invité du jour. Pascal, quelques mots sur ces artistes et ce titre.
Écoute, moi, si tu veux, Beth Hart, ça reste une voix extraordinaire et je l'avais... J'avais écouté sur quelques réseaux sociaux sa voix qui m'avait fondamentalement ému. Et si tu veux, C'était il y a 2 ans, lors du dernier festival de Jazz in Marciac. Elle est venue. J'ai assisté à son concert et là, franchement, quand tu l'as en direct, live comme ça, c'est franchement prenant, émouvant. Elle a une voix extraordinaire. Moi, je pense que c'est une des plus belles voix à l'heure actuelle dans le blues, dans le rhythm and blues. Et franchement, juste avant elle, il y avait une fille qui commence à sa carrière qui s'appelle Kimberly Rose. Et Kimberly Rose, tu voyais de suite, elle a une très belle voix. Mais quand The Best Art est arrivé derrière, ça a été le jour et la nuit. Donc franchement, c'est une artiste extraordinaire. Et puis j'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau que j'aime bien, où elle met toutes ses tripes dans ce morceau, parce que c'est souvent des moments de vie qu'elle a vécu. Mm-hmm. Et la guitare de Joe Bonamassa derrière, on le sait, c'est quand même un super guitariste. Et donc je trouvais que l'ensemble était super. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écouter ce morceau-là. Faire écouter ce morceau-là à beaucoup de nos auditeurs.
Et oui, en l'occurrence, votre serviteur qui découvre ce I'd Rather Go Blind avec Beth Hart et la guitare Joe Bonamassa. Avant d'aller retrouver Nina Simone, Pascal, ton troisième et dernier choix, mots sur ce qui t'occupe quand même avec le tennis, donc qui fait partie de ta carrière sportive, on l'a évoqué tout à l'heure, et dont tu es devenu depuis un bon moment déjà, un professionnel. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer les chemins comme ça que tu as parcouru dans l'atmosphère tunistique ?
Ben, tu veux, moi, au départ, je suis professeur d'éducation physique. Et professeur d'éducation physique. Après, je suis monté, comme beaucoup d'enseignants qui débutent dans leur carrière, je me suis monté dans la région nord, comme le disait... C'est Galabru, le Nord, et donc dans un film bien connu. Et donc, si tu veux, là-bas, quand je suis arrivé là-bas, le rugby, j'ai joué un tout petit peu parce que j'ai joué à la SPTT Arras. On était en deuxième division ou groupe B à l'époque. Et j'ai fait quelques mois et puis j'ai arrêté parce que, si tu veux, le rugby qu'on me proposait dans le Nord n'était pas tout à fait celui. La conception que j'avais, moi, du rugby et que celle qu'on vivait, nous, surtout à Mont-de-Marsan, où on était plutôt sur le jeu de ligne arrière. Et donc, je me suis replongé dans le tennis et j'ai passé mes diplômes de tennis. Et comme j'ai eu tous mes diplômes de tennis pour devenir professeur de tennis, en plus de l'enseignement d'éducation physique, j'ai la fédération qui m'a proposé de prendre un poste de conseiller technique régional de tennis. Et donc, ce qui m'a permis de me rapprocher un petit peu de ma région favorite, c'est les Landes quand même. Mmh. Et je suis descendu comme ça directement de Lille à Brive-la-Gaillarde, où j'ai passé 8 années de ma vie à découvrir des talents chez les jeunes dans la région Limousin, à faire mes premières armes. Et depuis 1999, maintenant j'ai un poste dans la région Occitanie. Alors avant c'était Midi-Pyrénées, maintenant avec les nouvelles régions c'est devenu la région Occitanie. Et là maintenant, je travaille depuis quelques années avec les joueuses, et surtout les jeunes, puisque moi je suis plus sur la formation du joueur de tennis. Et donc j'ai la chance de pouvoir, parce qu'on a des joueuses de qualité, et parce que c'est vrai que humblement je forme quelques bonnes joueuses, et donc je pars un petit peu à travers l'Europe et puis certaines parties du monde pour améliorer notre niveau de jeu et de compétences pour que ces jeunes filles deviennent des joueuses professionnelles.
En l'occurrence, Pascal, le programme sur les jours à venir, parce que tu vas traverser quelques frontières.
Alors, il était question, tu vois, là j'arrive du Portugal et d'Espagne, où j'ai passé quelques temps. Je devais partir en Pologne et partir en Slovénie, faire des tournois. Et là, à l'heure actuelle, y a un blackout total. Et donc, nous, la fédération et même le ministère de la Jeunesse et Sport, nous demande de ne plus sortir de nos frontières, de rester là. Je pense que c'est sage aussi, de dire, il faut garder un petit peu raison, et puis se dire que bon, mais si on peut pas y aller tout de suite, on repartira un peu plus tard, sur des compétitions, sachant que les prochaines compétitions, ça devait m'amener à partir 3 semaines aux États-Unis, donc je ne sais pas, vu l'état à l'heure actuelle des choses, comment ça va évoluer.
Et en attendant d'avoir de ces nouvelles-là, Pascal, tu resteras bien calé sur les ondes de Radio MDM, la sublime voix de Nina Simone, quand même, okay. On va arriver, Pascal, au bout de mon rendez-vous, parce qu'il y a Anthony Hillcock qui va prendre le relais dans les matinales de Radio MDM. On écoutera ce titre et tous les titres que tu as proposés. L'immense coquin, ce titre de champion de France en 63 qui a marqué évidemment l'histoire du sport montois. Avec Mr. Bojangles, quelques mots sur Nina Simone, Pascal.
Nina Simone, comme tout. Bon, beaucoup de gens le savent, c'est quand même une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues qu'on ait eu. Et puis, c'était un clin d'œil, si tu veux, à surtout mon épouse, parce que il y a un livre qui est sorti en 2016 qui s'appelle « En attendant Mr. Bojangle », un livre magnifique d'Olivier Bourdeau. Et donc là, ça raconte un petit peu l'histoire d'une famille tout autour de cette chanson de Mr. Bojangle. Et donc, je voulais un petit peu rendre hommage et un petit clin d'œil à mon épouse. C'était cette chanson de Mr. Bojangle, qui est une magnifique chanson reprise par Nina Simone, une chanson de Jerry Jeff Walker.
Et Pascal, tu sais, au-delà de tes aventures tauromachiques sur les ondes de Radio MDM, si un jour tu as un peu de temps pour, je sais pas, une émission musicale comme ça, n'hésite pas à le faire savoir, parce que voilà, on a bien senti ta passion, ton expertise, ton amour de tout ça, avec quelques vinyles, il me semble aussi, qui sont à l'étage à part chez toi aussi.
Oui. Il y a quelques kilos de vinyles qui trônent en haut, à côté des CD. Effectivement. Moi, je suis un petit peu un romantique et un nostalgique de toute cette période. Et j'aime bien entendre le son des vinyles, surtout des vinyles de l'époque, parce que maintenant. On ressort des vinyles. J'ai vu que dans certains rayonnages, il y avait beaucoup plus de vinyles presque que de CD. Donc je me dis que c'est une mode qui revient. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, je dirais, les originaux un petit peu de tous ces. De toutes ces musiques et donc pour moi le vinyle, ça reste une époque des années 70, 80, voire un petit peu 90, et à partir de 90, on est passé à autre chose, et donc moi le vinyle, ça reste une époque, et je préfère écouter cela que d'acheter les vinyles de musique actuelle.
Merci Pascal de nous avoir accordé ces quelques minutes ce matin. Et puis rendez-vous demain pour l'intégralité des titres que nous a proposés, notamment ce Mr. Bojangles avec la voix de Nina Simone. Je te souhaite une bonne journée, Pascal.
Mais Jeannot, je te remercie beaucoup. Ça a été super sympa. J'espère que les auditeurs sont restés avec nous. Et donc, je leur souhaite beaucoup de courage à continuer à rester confinés et à prendre bien soin d'eux.
Merci Pascal, à Dichat.
Ouais, à Dichat.
Bonne journée. Ouais. He said I dance now at every chance and honky tonks. Drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. He said I drink a beer,
shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, "Please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.